en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, merci Monsieur le Président de m'avoir fait l'honneur de cette invitation. J'ai placé cette communication sous les auspices de l'étrangeté, comme l'indique l'exergue tiré de Don Juan de Lord Byron, le mot « strange »,« this strange but true, for truth is always strange, stranger than fiction ». Je suis désolé de parler anglais dans cette enceinte, mais je voulais à tout le moins marquer décalage apparent qui existe entre les deux termes, deux lexèmes qui composent l'intitulé de cette communication « Théologie et science ». L'intitulé de cette communication, en effet, semblerait encourir une disqualification comparable à celle que Heidegger avait réservée, non sans puissance métaphorique, à l'idée de philosophie chrétienne. En allemand, « Hölzernes Eisen », du fer en bois, ailleurs un cercle carré. Et donc devoir avouer son inanité devant l'argument d'incompatibilité entre deux mondes de discours. En matière théologique, on s'attendrait volontiers à ce que les qualificatifs résonnent d'emblée de façon mystique, dogmatique ou liturgique, mais que la théologie est, depuis les temps immémoriaux, assumée vigoureusement, voire fièrement, le vocabulaire de science. Loin de sécréter une antinomie, la question tout à la fois préjudicielle et périlleuse qu'elle lègue cependant encore concerne le champ sémantique affecté à un vocabulaire historiquement soumis à une flexibilité rare. Premier point problématique. À titre introductif, on pourrait fonder l'idée apparemment sauvage de théologie scientifique en suivant analogiquement la façon dont, relisant Fichte et Hegel, Heidegger caractérisait la philosophie scientifique. Je cite dans les Beiträge zur Philosophie, traduit récemment par Fédier par apport à la philosophie, je cite « Dans l'intention d'une philosophie scientifique, vit encore un élan de la philosophie elle-même, celui de parvenir à sauver ce dont il s'agit à proprement parler avec elle, le sauver face au n'importe quoi, où nombre de plus en plus arbitrairement la façon de penser les visions du monde qui consiste à défendre son opinion la plus étriquée qu'on cherche à imposer par tous les moyens. La vertu que Heidegger estimait ainsi pouvoir reconnaître à la philosophie scientifique doit pouvoir concerner ce qui est appelé ici théologie scientifique, à savoir non pas imposer une vision du monde, Weltanschauung, ou soumettre le monde empirique à une sphère de croyance intemporelle, mais, et j'ouvre les guillemets à nouveau, sauver ce dont il s'agit à proprement parler. Fermez les guillemets. Cette trajectoire éloigne de la partition jouée par une certaine canonicité scientifique. À la science reviendrait la certitude, au titre de l'épreuve par les faits, et aux autres disciplines, telles la philosophie et la théologie, reviendrait la seule opinion ou la position vaguement subjective. Cette trajectoire que nous voulons emprunter ici, récuse en amont le binôme faible de l'école néo-kantienne, royaume des faits, royaume des significations, sur lesquels je ne peux pas ici m'attarder. On se souviendra, en prolongeant de la critique Hegel, dans la célèbre préface à la phénoménologie de l'esprit, adressait aux sciences mathématiques et aux sciences historiques, manquer le temps. On comprendra que soutenir l'idée de philosophie scientifique, à laquelle la philosophie ne se réduit certes pas, et pardon, d'une théologie scientifique à laquelle la théologie ne se réduit certes pas, implique aussitôt un moment crucial à l'égard des sciences elles-mêmes. L'idée de théologie scientifique a été ainsi récemment réactivée, explicitement revendiquée comme telle par le physicien et théologien anglican Alistair McGrath, l'inscrivant dans un projet de recherche inspiré par les travaux antérieurs du théologien protestant écossais Thomas Forsyth Torrance, et son fort plaidoyer en faveur d'un dialogue entre sens et théologie s'autorise du refus d'abandonner la nature à la culture et à la science. Pas plus qu'elle n'est une simple production culturelle, la nature ne saurait se soumettre au seul canon de la science moderne. Davantage, puisque la nature est toujours déjà prise dans un cadre interprétatif, alors s'installe la pertinence d'une articulation théologique de l'idée de nature avec celle de création. Un premier problème se pose ici de savoir ce qui distingue le concept théologico-chrétien de création de celui qui se trouve revendiqué dans d'autres religions. Pour McGrath, deux critères s'imposent à cet égard, celui de la référence christologique, qui indique le principe et le but de la création, et celui de l'ex nihilo. On pourrait déjà exprimer une objection ici, dans la mesure où l'idée de création ex nihilo n'est pas propre au christianisme, on le trouve dans le judaïsme tardif à tout le moins. Ce qui importe aux yeux de McGrath, c'est que l'idée de création implique d'emblée un certain ordre à partir de quoi tout effort d'intelligibilité du monde est rendu possible. C'est ici la vieille idée de théologie naturelle qui ressurgit, c'est-à-dire le discours qui affiche l'honorable prétention de lire dans la nature créée quelques marques permettant d'apporter quelques éléments de connaissance sur son créateur. Mais l'idée de théologie naturelle qui s'est répandue en Europe au XVIIe siècle a pu assumer deux conséquences contradictoires, certes non pas sans lien l'une avec l'autre. Premièrement, l'une visant à étayer les affirmations de la foi chrétienne, et l'autre tendant à la fondre dans l'idée de religion naturelle, provoquant à peine deux siècles plus tard les refus célèbres, voire les foudres même, d'un Karl Barth. Si McGrath prend malgré tout parti en faveur de la théologie naturelle, c'est parce qu'il pose en même temps un contre-feu à l'avantage de la théologie protestante, particulièrement constante dans l'affirmation d'une corruption totale de l'homme et du monde après le péché. McGrath intègre en effet la théologie naturelle dans la théologie de la révélation par le moyen terme de l'idée de création, catégorie relevant d'une herméneutique déjà théologique. Nonobstant ses audaces et le courage spéculatif qu'il atteste, ce dispositif laisse insatisfait puisqu'il laisse en suspens un second problème tout à fait majeur qui est celui de la capacité rationnelle du sujet humain à se prononcer sur la nature à partir de ce qu'elle donne elle-même. On se demande alors si l'absence de la philosophie dans la réflexion de cet auteur ne finit pas par écraser la double exigence d'autonomie des investigations scientifiques et de leur confrontation avec le questionné radical qui en constitue, depuis le grec, la tradition, je veux dire la philosophie. On rappellera à ce stade que dans la Summa Theologiae, Thomas d'Aquin articulait la théologie philosophique, c'est-à-dire ce dont la raison fonde et dessine la trajectoire de pertinence, et la théologie de la révélation, ou la doctrina sacra, de telle sorte que ce qui est dit en raison de la première se trouve accompli, mais jamais amalgamé, dans la seconde, qui, elle, reçoit dans la foi ses propres principes de la science divine, de la science scientia dei et beatorum. Et c'est ainsi une constante, cette fois de la théologie catholique, que de laisser la raison humaine sans le secours de la révélation à ses capacités natives en vue d'un discours fondé, quoique insuffisant, sur le monde. Il est à cet égard remarquable que, relisant la tripartition de la théologie chez le stoïcien Varron, saint Augustin ait justement caractérisé la théologie non pas comme un discours des poètes fabulateurs, non plus comme un discours politique de la cité, théologico-politique, mais comme théologie physique. Que la théologie puisse se prévaloir de quelque scientificité, cela passe en effet par la mise à l'épreuve de sa prétention à tenir un discours sensé sur le monde. Ce point de départ permettra aussi bien de congédier nettement l'idée de théologie comme science positive, c'est-à-dire une théologie rivée au seul positum scripturaire. Cette dernière notion de science positive, largement exploitée par Husserl, renvoyer toute science expérimentale à sa naïveté première, savoir qu'elle ne sait pas elle-même dessiner l'air sur lequel elle travaille, l'air aïre sur lequel l'air est prédonné. Or, si la théologie n'est pas une science positive ou naïve, c'est parce que, loin de se limiter au seul commentaire de sa positivité, scripturaire ou dogmatique, elle puise les ressorts de son élaboration dans l'être au monde duquel elle participe. Dit autrement, elle n'est point une science ontique opposée à la philosophie comme science ontologique. Elle peut ou devrait exhiber ses titres qui font d'elle aussi bien un discours sur le monde. Deuxième point, la theologia comme scientia. La problématique étant ainsi posée, La théologie, telle que nous en ressaisissons ici le concept, n'est plus simplement déclinée selon sa seule étymologie grecque et l'usage qu'en fit son inventeur Platon dans la République 379c sous la forme théologias, c'est-à-dire produire un discours sur le Dieu à distance des mythes reçus. Mais nous l'entendons selon le tournant décisif que lui imprima Abélard, c'est-à-dire comme un discours systématique, critique et rationnel de la foi, inspiré par la foi. La question se pose donc maintenant de savoir comment le discours systématique de la foi peut être qualifié de scientifique et ainsi revendiquer de soi et à partir de soi ce qui les constitue, à savoir la foi, les qualités qui font science. Cette question fut posée dès les premiers âges de la théologie et traitée à l'âge d'or de la scolastique médiévale. Pierre Lombard, dans ses sentences, répondit que la foi, en raison de ses différentes formes de propositions, prédication, écriture sainte, est objet de science, c'est-à-dire les vérités crues peuvent et doivent faire l'objet d'un savoir. Et, dès avant Albert le Grand, se distinguaient deux méthodes de théologie, l'une qui se définit comme la parole de Dieu consignée dans les Écritures, et l'autre, nouvelle, qui obéit au principe non pas credibile und credibile, mais credibile und intelligibile. Pour Thomas d'Aquin et ses pairs, la théologie, en effet, devait argumenter de deux manières, d'une part ad defensionem, et d'autre part en vue de l'élaboration du discours de la foi elle-même. Ce second point de vue, qui voulait honorer la ratio scientiae, il s'agissait pour lui, comme l'a commenté autrefois le père Marie-Dominique Chenu, il s'agissait d'intégrer premièrement la démarche d'acquisition qui qualifie la science à la démarche de la foi qui elle est reçue, deuxièmement intégrer la demande de savoir universel à la doctrine sacrée qui elle traite du particulier historique, une révélation historique, troisièmement intégrer la démarche de raisonnement qui va du plus connu au moins connu, à la démarche dont la caractéristique première est l'inévidence et le régime d'obéissance. Ici intervenait la théorie de la subalternation, ou plus exactement de la quasi-subalternation. Thomas d'Aquin, dans la Summa Theologiae, dans la prima pars question 1, article 2, donnant le respondeo suivant, je cite, « À coup sûr, la doctrina sacra est une science. Mais parmi les sciences, il en est de deux espèces. Certaines s'appuient sur les principes connus par la lumière de l'intelligence, tels l'arithmétique et la géométrie, etc. Et d'autres procèdent de principes qui sont connus à la lumière d'une science supérieure, comme la perspective à partir de principes reconnus en géométrie et la musique à partir de principes connus par l'arithmétique. Et c'est de cette façon que la doctrine sacrée est une science. Elle procède en effet de principes connus à la lumière d'une science de Dieu et des bienheureux. Et comme la musique fait confiance aux principes qui lui sont livrés par l'arithmétique, ainsi la doctrina sacra, c'est-à-dire la théologie, accorde foi aux principes révélés par Dieu. De la doctrine sacrée à la science de Dieu, il n'y a pas subalternation d'objets, mais seulement de principes. En conséquence, la théologie n'aura pas le caractère d'autonomie des sciences profanes subalternées, d'où l'expression de saint Thomas de quasi-subalternation. Cette théorie de la quasi-subalternation, on le voit, relevait d'un tour de force, puisque saint Thomas soutenait que la scientificité de la théologie requiert le principe de la foi, ce qui faisait dire au père Chenu, phrase emblématique, « Cela même par quoi la théologie est science, chez Thomas d'Aquin, est ce par quoi elle est mystique. » Mais il est non moins remarquable qu'ait été posée par Thomas une continuité entre la science de Dieu et des bienheureux d'un côté et la théologie d'autre part. Cette continuité sera précisément mise en question et même mise en péril dès le début du XVIe siècle. Un signe éclatant en est donné avec Descartes, qui dès la première partie du discours de la méthode écrit, un texte quasiment testamentaire, « Je rêverai notre théologie », entendons la théologie scolastique. « Je rêverais notre théologie et prétendais autant qu'aucune autre à gagner le ciel, mais ayant appris comme chose très assurée que le chemin n'en est pas moins ouvert aux plus ignorants qu'aux plus doctes, que les vérités révélées qui y conduisent sont au-dessus de notre intelligence, je n'eusse osé les soumettre à la faiblesse de mes raisonnements. Et je pensais que pour entreprendre de les examiner et y réussir, il était besoin d'avoir quelque extraordinaire assistance du ciel et d'être plus qu'homme. Pour Descartes, en effet, point de cogitatio fidei. Recevant les vérités révélées, on devrait être plus qu'homme pour être en mesure de les examiner. On peut comprendre cette incompétence humaine sur le fond de la distinction scotiste, Duns-Scot, relayée par Guillaume d'Ockham, distinction fameuse entre la potentia Dei absoluta et la potentia Dei ordinata. On aperçoit alors toute la trajectoire et sa fortune moderne qui placera la théologie et la raison philosophique en position d'étrangeté que je qualifierais de relative, puisque Descartes, malgré tout, considérait en fin de vie que sa position, par exemple, philosophique, pouvait rendre service à la théologie, notamment à la théologie eucharistique. Troisième point, entre rivalité et indifférence, la relation entre la théologie et les sciences a pu ainsi donner lieu, dès avant la période moderne, un jeu alternatif entre rivalité et indifférence. Que la théologie ait pu se prétendre au temps moyenâgeux reine des sciences, science par excellence, en vertu d'une reprise de l'ordre aristotélicien des savoirs, lequel culminait dans la théologie philosophique, cette prétention s'est déplacée dans une rivalité parfois mimétique dans les sciences physico-mathématiques, mais aussi vers les sciences historiques naissantes. Il faudrait alors relever, chose impossible ici, les différents types de médiation historique par lesquels l'équation médiévale entre la théologie et la science s'est progressivement effacée, tel le passage à une théologie décléricalisée, ou bien encore le fossé croissant entre sagesse et savoir, ou encore, not the least, la perte dès Luther, et avec Descartes, de la représentation analogique des rapports Dieu-monde. L'un des marqueurs les plus puissants en sera la tentative d'élaborer ce qui fut appelé dans un sens précis la théologie physique. La théologie physique. Et dont l'intention, qui s'atteste à partir du XVIIe siècle, consistera à soutenir le discours théologique par des données scientifiques. Si ce discours de la théologie philosophique ne recoupe guère celui scolastique de la théologie naturelle, il en garde cependant l'ambition de solliciter la raison à même ses seules ressources. De Leibniz à Boyle et à Bentley, il s'est agi en effet de produire une théologie capable de mettre en évidence la sagesse du Dieu révélée par la preuve des merveilles de la nature. C'est que la providence doit être lisible dans les phénomènes, notamment les corps organisés, tels que, tout spécialement, l'organe de la vue, en lequel, en effet, se reflète la gloire du Créateur et par lequel s'offre le spectacle de la création. Pour le dire, conformément à un usage métaphorique alors naissant, le livre de la nature ne pouvait que plaider en faveur du livre de la révélation. De l'un à l'autre, il convenait de lire, de comprendre et d'interpréter. Une telle ambition voulait se nourrir des progrès de la physique expérimentale, mais aussi des tout premiers développements de la science démographique porteuse d'une vision téléologique de la nature. Le monde théologique protestant, face à cette même ambition, ne sera pas en reste. Il lui apportera maints titres de noblesse avec le thème central de la Physica Christiana. Un certain Comenius, qui était un interlocuteur momentané de Descartes, faisait, à l'instar des Christianissimi philosophie, faisait du texte des Écritures saintes une clé permettant de connaître le monde physique. Qu'est-ce alors que la physique du Physicus Christianus, si ce n'est une réponse systématique et convenante à la demande de finalité de la connaissance et de l'explication causale? Mais les critiques successives de Jean-Jacques Rousseau et d'Emmanuel Kant, visant l'équivalence entre une conception téléologique et une visée théologique, ces critiques ont brisé tout espoir de fonder une théologie physique. Le véritable tournant kantien, qui ouvre un champ a priori indépendant de toute empirie, ne pouvait que barrer la route empruntée vaillamment par Newton, dont, je le rappelle, 70% de l'œuvre est de théologie, et qui menait donc de la physique à la théologie. Désormais, ce ne sera plus la cosmologie qui orientera vers la découverte de la transcendance, mais le principe anthropocentrique accordé au primat de la liberté raisonnable. La question de savoir si s'enracine là même la pratique de distance que les scientifiques revendiqueront eux-mêmes entre le possible et le souhaitable de la recherche scientifique sera, quoique importante et à mains égards décisive, cette question sera laissée ici en suspens. Nous ferons seulement observer qu'avec le baron d'Holbach et son système de la nature, le coup de grâce sera porté. En ne voyant dans la théologie qu'une procédure métaphysique, qu'elle soit de facture mythologique ou spéculative, le baron d'Holbach en détachait tous les ressorts de la chair du monde. Je cite d'Holbach dans le système de la nature au chapitre 2. La théologie rejette l'expérience et le témoignage des sens, elle méprise la raison, prétend la subjuguer et la soumettre à l'imagination. Toutefois, si l'horizon mystique qui était celui des fondateurs de la science moderne au XVIe et XVIIe siècle et leur attachement à décrypter dans le livre de la nature le sceau de Dieu était brisé, la situation alors créée ne détruisait pas, parfois même renforçait, les sphères d'intérêt théologique pour la science. Outre les tentatives institutionnelles de réintégrer la science dans le cadre des affirmations orthodoxes et de prévenir par la censure ses choix blasphématoires, la théologie mobilisait ses ressources pour honorer la détermination scolastique des Praeambula Fidei, allant jusqu'à une attitude défensive. Plusieurs modèles de rapport théologie-science vont en réalité s'installer avec plus ou moins de fortune entre les 19e et 20e siècles, cherchant à intégrer la nouvelle conception du monde comme histoire. Si l'idée d'une histoire universelle et d'un progrès historique n'émane guère de la science, mais trouve ses racines et nombre de ses développements dans le christianisme principalement, on va dire le judéo-christianisme entre guillemets, avec 1000 guillemets, la théologie, reprenant ce qui lui appartient, ne pouvait plus se penser à la remorque des découvertes scientifiques ou des épistémologies qui en revendiquaient l'intelligence. Ainsi, l'exploitation du thème de l'évolution par la zoologie au XIXe siècle constituera un paradigme permettant de rendre compte de la diversité des pratiques scientifiques. Le monde se déchiffre en science désormais non plus comme un livre, mais comme un récit, exigeant des grammaires qui expliquent le passage du simple au système complexe. La théologie a pu alors, à ses risques et périls, s'allier à la science par la médiation du concept d'histoire pour tenter de former un récit compatible avec l'une et avec l'autre. Il est possible de relire à cette aune la tentative magistrale, inspirée notamment par Whitehead, d'un Teilhard de Chardin. Mais en mettant aussitôt le doigt sur le point de distorsion vite relevé qui concerne l'idée de péché originel. On peut affirmer en effet que la résistance de l'orthodoxie religieuse à cet égard aura été analogue à celle des théologiens, celle que les théologiens avaient pu exercer face aux théories déterministes de la mécanique, étant soucieux, en l'un et l'autre cas, de préserver à la liberté humaine tout l'espace qu'elle requérait à leurs yeux. Certes, un théologien comme Karl Rahner, 20e siècle, aura fait résonner une musique originale dans la même période en s'ouvrant à la problématique de l'évolution au titre de l'écoute théologique des lois de la nature. Alors, on a appris il y a quelques petits jours que le pape François, mardi dernier, avait fait une communication à l'Académie des sciences dans laquelle il déclare ce que, d'une certaine manière, les successeurs de Rahner et d'autres avaient pu déclarer. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le Big Bang et l'évolution. Il n'y a rien de nouveau, sauf que, comme le microcosme journalistique a pu le relever, il s'agit là, en réalité, d'une critique assez claire et assez nette des créationnistes. Mais tout ce que Kierkegaard a pu défendre de la différence chrétienne, son attachement passionné à la liberté humaine, y compris celle de la foi, et tout ce que le théologien Hans Urs von Balthasar a indiqué lui-même des réductions cosmologiques et anthropologiques, tout cela demeure parmi les plus grandes figures de style ayant préservé à la théologie sa source propre d'inspiration et d'élaboration, à savoir la gloire de Dieu. Et c'est dans cette même veine qu'un théologien catholique comme Louis Bouilhet a pu faire valoir la puissance rituelle et liturgique dans la prise en compte du devenir cosmos. L'originalité de sa thèse, qui ne méconnaît ni n'écarte la critique rationnelle grecque du mythe, tient en ce que le monde doit sa consistance aussi à l'activité divine, à la manière dont la liturgie transforme, subvertit sans cesse les réalités déjà là. La vérité du monde est alors indissociable de la vérité agissante de Dieu au jour le jour dans sa création. La question se pose de savoir comment qualifier la création divine continuée et la créativité humaine dans ses différentes polarités disciplinaires, scientifiques, éthiques et philosophiques. D'où mon quatrième et dernier point, Monsieur le Président, conversation et vérité. Si la tradition théologique possède, depuis la christianisation par saint Justin du thème grec spermatikos logos, donc le verbe ensemençant, et du même effet depuis la conjonction des schèmes incarnatoires et eschatologiques, donc si elle possède cette tradition théologique les déterminations les plus fondamentales de l'intérêt pour la science et les sciences, elle en partage sous un mode qui lui est propre la demande de vérité. Or, le problème de la vérité s'est posé principalement depuis la seconde moitié du XIXe siècle selon les canons de la culture scientifique. On accède à la notion de vérité scientifique par vérification incessante des hypothèses et mise à l'épreuve des théories. Mais cette pratique de la vérification exige aussitôt une épistémologie des modèles critériologiques que la communauté scientifique établit elle-même et exploite. Le concept pivot du débat ici est le doute. Mais la question des frontières entre le doute méthodologique et le doute existentiel s'y trouve sans cesse reposée. L'homme de science est, si je puis dire, devenu, si je puis dire enfin, un hésitant. Cette hésitation scientifique porte aussi bien sur le rôle que la notion de vérité peut jouer dans la pratique scientifique que sur la question de savoir si la science, dans son ordre propre, peut en venir à déclarer quelque chose comme vrai. Contrairement aux prétentions héritées d'un scientisme abusif, d'ailleurs c'est un pléonasme que de parler de scientisme abusif, résiduellement contemporain d'ailleurs, l'homme de science se révèle désormais scrupuleux, modeste, humble, sa vertu d'humilité apparaît coextensible à l'impossible accès à la vérité dont semble frapper son exercice. Les sciences, et non pas seulement les scientifiques, semble avoir de bonnes raisons de se placer à l'écart de toute fixation de la vérité lorsque, précisément, le principe qui les met en œuvre ne connaît de langue maternelle que celle de l'hypothèse, mais la disposition d'humilité devant la question de la vérité ne se réduit pas au seul jeu de l'hypothèse. Peu avant sa mort, en 1996, le philosophe des sciences, épistémologue Alistair Cameron Combine de Oxford, a relevé, dans un ouvrage important sur les styles de la pensée scientifique, a relevé justement les styles de la pensée scientifique qui ont prévalu tout au long de l'histoire de la pensée européenne et qui sont à ses yeux au nombre de 6. Je les cite. Premier style, la postulation mathématique. Deuxièmement, l'exploration expérimentale. La modélisation mathématique. La classification taxinomique, l'analyse statistique et la dérivation historico-génétique. Sur la base de tels travaux de facture exclusivement historique, Ian Hacking de Toronto, puis qui a enseigné au Collège de France il y a pas si longtemps, Hacking a cherché à faire valoir des types de critères déterminant les conditions de vérité propres au domaine auquel il s'applique. Puisque chaque style de raisonnement introduit une nouvelle classe d'objets et des talents humains propres. Ainsi, en mathématiques, la déduction méthodique en constitue l'expression supérieure. Dans les sciences de laboratoire, le talent réside dans l'utilisation et la construction des instruments. Dans les sciences classificatoires, le talent tient la capacité de construire des schémas taxinomiques. Cette approche constructiviste s'articule, pour Hawking, à l'exigence d'une prise en compte des systèmes évolutifs de l'espèce humaine. Elle aboutit à la mise en question de la vérité dans les sciences, ou plus exactement, à la mise en cause de leur objectivité dès lors que leurs objets sont aperçus comme étant produits par des styles de raisonnement. Cette approche correspond en réalité à une stratégie visant à fuir tout en soi de la vérité dont une aspiration surhumaine viendrait révéler le trait au bénéfice d'une historicisation quasi génétique de ces modes d'apparition. Cette stratégie s'achève dans la thèse selon laquelle la réalité a plus à voir avec ce que nous faisons dans le monde qu'avec ce que nous pensons à cet égard. Quand je relis cette thèse de Hacking, je pense souvent à la phrase de saint Augustin dans les Confessions, livre 11, à propos du temps. Lorsque je me pose une question sur le temps, tout va bien, je comprends tout de suite. Et dès que je me pose la question, je ne comprends plus rien. On peut dire que la thèse, ici, est à peu près analogiquement la même, à savoir que, finalement, la vérité est plus dans ce que nous faisons que dans ce que nous pensons. Et la conclusion de Hacking est précisément celle-ci. L'idéal de la science n'est point l'unité, mais la pluralité absolue. Nous n'avons pas ici à discuter des enjeux épistémologiques des sciences. Je ne suis pas moi-même épistémologue des sciences, pas spécialiste en épistémologie des sciences. Mais nous pouvons relever la part irréductible que comportent les histoires de chacun des ordres de rationalité dans l'accès à la question de la vérité. Si la question de la vérité en philosophie se dit par la radicalité d'un questionnement universalisable, ainsi que par l'humilité de l'écoute de ce qui est là, on peut également parler, non moins, d'une vérité esthétique, en distinguant l'acte qu'elle exprime, qui est celui d'une reconfiguration symbolique, au plan pictural, musical, architectural. Reconfiguration symbolique du monde. Si ces trois ordres de vérité, scientifique, philosophique et esthétique, croisent, voire se saisissent, sans en mesurer toujours la portée, se saisissent des structures théologiques, à savoir création, eschatologie, et de fait, la philosophie, l'art se saisit de ces objets que sont la création et l'eschatologie. Et la science se saisit aussi de ce concept de création. La question à poser ne concerne pas seulement la caractérisation de l'ordre propre de la vérité théologique, mais aussi celle de l'articulation de ces vérités au bénéfice de l'élucidation même de la vérité. Cette articulation des vérités n'est pensable que sur fond d'une alliance première qui n'est pas sans rapport avec la constitution du monde. Or, cette alliance, pour la théologie, est d'abord un événement. Je suis la vérité. C'est précisément parce que la vérité théologique est, si je puis dire, essentiellement historiale et événementielle, c'est-à-dire le Dieu qui sauve, qu'elle se rend prête à accueillir l'itinéraire propre des autres ordres de raison. Il y a ainsi dans ce trait ce que Thomas Forsyth Terrence, que j'ai cité tout à l'heure, rappelait en invoquant ce qu'il appelait donc la disposition dialogale de la théologie, d'autres diraient dialogique, et que nous pourrions radicalement encore appeler le principe kénotique de la théologie. Le débat pourrait être ici instruit par le conflit historique et paradigmatique qui a généré à la fin du XIXe siècle la crise moderniste et dont nous ne sommes sans doute pas encore sortis, crise qui peut se résumer en la mise en scène d'une alternative finalement artificielle entre la raison historico-critique et l'affirmation dogmatique. Entre eux, pour reprendre le divorce bultmannien célèbre, divorce entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. La rédaction des célèbres histoires de Jésus au XIXe siècle, qui se voulaient plus scientifiques que les christologies classiques, se sont révélées in fine lourdes de présupposés philosophiques, j'allais dire métaphysiques, et non moins romantiques. Au total, on voit mieux comment les sciences historiques ont dû repenser leurs prétentions épistémologiques. On peut relever non moins comment la raison dogmatique a dû intégrer les exigences de la condition historiale du discours et même tirer bénéfice de l'exégèse historico-critique, tant blâmée dans certains milieux, à côté des autres méthodes et approches telles que les a reformulées en 1993 le document précieux de la Commission biblique pontificale intitulé « L'interprétation de la vie dans l'Église ». C'est probablement un des enjeux les plus puissants, les plus délicats dans le dialogue entre les religions. Conclusion. Nous avons contesté, congédié, chemin faisant, outre l'idée de théologie comme science positive, deux types de théologie scientifique. L'une qui se fonde sur la possibilité d'une herméneutique de la nature en termes de création, donc de façon arbitraire, et l'autre qui s'appuie ou cherche à s'appuyer sur des convergences thématiques ou schématiques telles que croyance, progrès, convergence en réalité fragile. Il nous faut donc entendre autrement une telle expression, pour autant qu'elle désigne un incessant programme de travail. Donc je retiendrai trois traits. En premier lieu, il s'agit d'une théologie instruite par la philosophie sur les ordres de raison et les différents jeux de catégories qui les accompagnent, et ainsi la préserver des raccourcis naïfs allant de la science à la théologie, de la science aux écritures sacrées. à comme on l'entend trop souvent, peut-être à mon sens. En second lieu, une théologie capable, en vertu de sa disposition mystique, de recueillir positivement l'itinéraire et même les errances de la quête scientifique en ses principes propres de vérification, dans les sciences de la nature par le rassemblement des observations factuelles, macro ou microscopiques, et dans les sciences humaines par le rassemblement des résultats en matière d'histoire, de rédaction des textes, de critique textuelle, de clôture canonique, etc. Et en troisième lieu, une théologie tenue de faire valoir ses titres propres dans l'intelligence de ses objets propres et des choses du monde, là où précisément et gravement il en va de ce qui la constitue, la foi, l'espérance et la charité. Donc en manière d'ouverture, deux thèses conjointes. Premièrement, chaque ordre de vérité, théologique, scientifique, philosophique, esthétique, trouve dans les trois autres un motif qui concerne son propre accès à la vérité. Autrement dit, je crois qu'on peut refuser l'idée selon laquelle chaque ordre de raison aurait ses motifs propres à usage interne. On peut soutenir l'idée que les motifs qui mettent en ordre chacun des autres raisons valent mutatis mutandis pour les trois autres ordres. On ne saurait donc valider l'idée selon laquelle la théologie pourrait ou même voudrait disposer de normes hors-monde permettant de disqualifier les chemins d'accès mondains à l'intelligibilité du monde, que ce soit la nature, l'humain ou le divin. C'est que la croyance, la vérification méthodologique, l'universel du questionnement, la configuration symbolique du monde déterminent des processus d'affirmation et d'interrogation qui retentissent auprès de chacun d'eux. C'était la première thèse et la seconde thèse par laquelle je termine mon propos. Que la personne divine incarnée, c'est-à-dire temporelle, soit vérité, je suis la vérité, cela constitue aussi un paradigme pour la notion de vérité elle-même. Révélant, en la réalisant, l'alliance divino-humaine, le médiateur donne un prix nouveau aux médiations et aux structures différenciées par quoi opère la quête humaine de la vérité. Je renvoie ici à l'encyclique Fides et Ratio, tout à fait exceptionnelle. Alors la décision se retourne cette fois entièrement. La question se retourne cette fois entièrement. Loin de subir les affirmations de vérité scientifique ou philosophique, la théologie les sollicite jusqu'en leur point autocritique, c'est-à-dire jusqu'en leur point de silence. On pourrait ici, dans une formule concise, tenir que la théologie négative, qui assume la distance de l'affirmation, dialogue avec la science négative qui assume l'affirmation théorique, en passant par la médiation philosophique qui assume nativement l'écoute et l'interrogation. On se rappellera enfin qu'en usant de la métaphore des cinq sens, chacun des ordres de connaissance gardant son jeu propre et la théologie les assumant selon sa vie, ses propres, saint Thomas d'Aquin racontait ainsi, en assumant ces différents ordres de connaissances, racontait son métier de penseur. Je vous remercie.